you, Sir Bond.
Good evening, Your Majesty.
Conversation secrète par Philippe Vasset et Pierre Gatineau. Aujourd'hui, l'aristocratie de l'espionnage, le Royaume-Uni. Difficile d'imaginer cela ailleurs. Dans les couloirs de Buckingham Palace, un espion de cinéma escorte une reine, tout ce qu'il y a de plus authentique. Le clip a été réalisé pour la candidature de Londres aux Jeux Olympiques de 2022. On y voit James Bond en smoking impeccable, monter en hélicoptère avec Elisabeth II, puis sauter en parachute aux couleurs de l'Union Jack avec la souveraine au-dessus du stade de Wembley. Aucun autre pays au monde n'a su faire de ces hommes de l'ombre une telle mythologie nationale. Les espions au Royaume-Uni sont des princes. On les célèbre partout, à l'écran, à la télévision et sur les étagères des libraires. Le moindre bookshop de campagne a une section spy novels, riche de plus d'une centaine de titres. Le contraste avec la France est saisissant. Chez nous, la fiction n'a que deux emplois pour les agents secrets. Des pitres ou bien des monstres. Au mieux Nikita, au pire OSS 117.
Messieurs, nous commençons.
My name's Sir Richard Dearlove.
Mon nom est Sir Richard Dearlove. J'ai été le chef des services secrets, le MI6, de 1999 à
2004.
Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux d'Ascot, une compagnie d'assurance, filiale de la Lloyd's, dans Fenchurch Street à Londres, compagnie que je dirige et qui explique donc notre présence ici.
Ce que Sir Richard ne dit pas, c'est qu'il a passé 34 ans au sein du MI6 avant de le diriger, qu'il a été responsable des antennes les plus stratégiques du service de renseignement extérieur britannique, notamment les antennes de Genève, de Paris et de Washington. Il est un des membres les plus éminents de cette aristocratie du renseignement qui fait la fierté de la couronne britannique.
Very significant cultural difference between the intelligence and security community in the UK and in France.
Il y a une différence culturelle très significative entre la communauté du renseignement au Royaume-Uni et son homologue en France. Au Royaume-Uni, le renseignement est une profession reconnue qui a toujours attiré des gens qui auraient pu choisir n'importe quel autre secteur et réussir.
It's partly because of its historical continuity.
C'est notamment parce que les services secrets ont été constitués comme une part importante du gouvernement, et ce depuis le milieu des années 30.
And there's always been a strong sort of intellectual link between people who have worked in the intelligence community.
Il y a toujours eu une connexion intellectuelle entre la communauté du renseignement et le monde universitaire.
I mean, the most famous example of that is during World War II.
L'exemple le plus célèbre est le décryptage des codes allemands durant la Deuxième Guerre mondiale.
You know, the decipherment of German communications. So many of the people who worked on that were famous university professors and mathematicians who went to.
La plupart de ceux qui ont mené cette entreprise à Bletchley Park étaient des mathématiciens et des professeurs d'université célèbres, parmi lesquels Alan Turing, le père de l'informatique moderne.
I graduated from Cambridge in the 1960s.
Quand j'ai eu mon diplôme de Cambridge dans les années 60, j'avais l'intention d'entrer au ministère des Affaires étrangères. Mais j'ai fini par entrer dans les services secrets, qui étaient alors considérés comme une carrière prestigieuse. Je sais que ce n'est pas le cas en France et que les gens qui intègrent la DGSE et son ancêtre, le SDEC, ont longtemps été des militaires et pas des universitaires. Mon propre cas est assez emblématique. Plusieurs de mes homologues français avec lesquels je suis toujours en contact étaient très surpris lorsque je suis devenu, juste après avoir quitté le MI6, responsable du collège le plus prestigieux de Cambridge. J'étais même, pendant un temps, vice-recteur adjoint de l'université. Tout cela n'aurait pas été possible en France, j'en suis bien conscient. Je pense même qu'une telle situation aurait été impossible dans n'importe quel autre pays européen.
Au-delà des murs de l'université, le thème de l'espionnage s'est diffusé dans tous les segments de la pop culture britannique. Et ce, jusque dans la musique. Tous les 3 ans, les groupes les plus en vue se battent pour écrire la chanson du générique du dernier James Bond. Et en 2007, le groupe chinois Joyside revenait aux sources de la Spyploitation avec le morceau Spy.
Les espions sont non seulement à Cambridge, mais aussi à la Chambre des Lords. Et c'est sur les bords de la Tamise, à l'ombre des tours du Parlement, que nous rencontrons l'un de ces sécurocrates reconvertis dans la politique. Dans l'univers encore ultra misogyne du renseignement britannique, la baronne Pauline Neville-Jones est une exception, à la carrière en dents de scie. Petite femme énergique au débit de mitraillette, Dame Pauline a négocié d'une main de fer les accords de Dayton et tenu à bout de gaffe les leaders serbes et bosniaques.
Quand j'étais haut fonctionnaire, l'une de mes tâches était de présider le Joint Intelligence Committee.
Subsequently, when I entered politics, I actually became Minister of State for Security and Counter-Terrorism.
Ensuite, je suis entrée en politique et j'ai été secrétaire d'État à la sécurité et au contre-terrorisme au sein du ministère de l'Intérieur. Les hauts fonctionnaires peuvent entrer à la Chambre des Lords. J'ai plusieurs collègues dans ce cas. Et plusieurs d'entre eux sont d'anciens responsables du renseignement. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. Je pense que le système politique est plus sain si les membres sont issus de tous les secteurs de la société. L'une des choses que je n'aime pas dans la politique moderne est que les parlementaires sont de plus en plus souvent d'anciens assistants qui ont gravi les échelons d'un système depuis leur plus jeune âge, sans jamais faire autre chose que de la politique. Je pense que c'est une très mauvaise idée.
Mon cas est assez unusual, in one respect. which is that normally what happens to senior officials if they get involved in politics, they come into the House of Lords, which of course is a nominated house.
Ma trajectoire est inhabituelle. D'ordinaire, les hauts fonctionnaires entrent à la Chambre des Lords sur nomination et ne s'affilient pas à un parti. Moi, j'ai fait l'inverse.
Variety of reasons, but partly actually because one day, I mean, how I got into it was David Cameron, who just became leader of the Conservatives, rang me up.
La façon dont cela s'est passé, c'est que David Cameron, qui venait de prendre la tête du Parti conservateur, m'a appelé et demandé si je voulais aider à renouveler l'approche des conservateurs en matière de diplomatie et de défense.
And renew and revive its foreign policy and defense policy. And this was in the wake of the shambles that had resulted from Iraq.
Tout cela se passait juste après notre intervention en Irak, au moment où le pays se trouvait profondément divisé. Il avait besoin de renouvel. Je venais juste de démissionner de la direction d'une entreprise publique de défense, Kinetic, et j'étais en train de me demander ce que j'allais faire ensuite. David Cameron m'a pris au bon moment, et je me suis dit que tout cela pouvait être intéressant.
Les espions au Royaume-Uni sont plus qu'une amicale, une véritable communauté. On les retrouve comme conseillers des plus grands PDG de la City, notamment chez BP, chez Shell, mais aussi sur les bancs du Parlement. Paddy Ashdown, l'inamovible leader des Lib Dems, le centre droit britannique, était ainsi un ancien du MI6.
Et comme toutes les communautés du Royaume-Uni, depuis les jardiniers jusqu'aux joueurs de golf, les espions ont leur club. Le Traveller sur les bords de la Tamise, le Caledonian ou encore le Special Forces Club situé juste derrière le supermarché de luxe Harrods dans un immeuble en briques anonymes. Tous ces cercles accueillent le soir les fonctionnaires et les retraités du renseignement britannique. Au Special Forces Club, les membres dînent ou prennent un verre dans une salle à manger ornée des portraits des agents tombés pendant la Seconde Guerre mondiale, aux côtés des résistants français parfois. Il y a même des chambres pour les visiteurs de passage qui n'ont pas d'adresse londonienne. Inchangée depuis les années 50, l'atmosphère du club a été bousculée il y a quelques années quand la nouvelle direction a souhaité élargir le recrutement aux anciens officiers de police, suscitant une véritable bronca autour des cuivres polis du bar.
It does have its own mythology. And actually, it's an important asset in terms of its reputation. I mean, it's also had its.
Le renseignement britannique a effectivement sa propre mythologie. C'est un aspect important de la réputation des services, même s'il y a eu des désastres. C'est difficile d'expliquer pourquoi les choses sont ainsi. Une part de la réputation des espions britanniques vient de leur succès, notamment à décoder Enigma.
But also, there has been a serious theme in modern literature. In the United Kingdom, in English literature, where people have written about the intelligence community,
mais il y a également dans la littérature britannique une sérieuse tradition du roman d'espionnage.
It's so far from reality.
Bien sûr, une large part de ces histoires est largement fictionnée et n'a qu'un rapport très lointain avec la réalité.
And that myth is important because it attracts.
Mais tout cela a créé un mythe, une aura. Et ce mythe est important car il attire des recrues. Durant la guerre froide, l'avantage que nous avions, c'était que les gens venaient offrir leurs services aux renseignements britanniques parce qu'ils savaient que nous existions. Ils connaissaient notre réputation et le genre de personnes que nous employions. Ils venaient volontairement. Il y a eu des cas célèbres. Tout ça, évidemment, ne veut pas dire que les services d'autres pays n'ont pas remporté de victoire, eux aussi. La France a largement contribué à casser les codes d'Enigma. Si vous regardez l'histoire du renseignement français, avant même qu'il devienne une institution, les mathématiciens français ont toujours été des casseurs de codes de premier ordre. Et ça remonte à Napoléon, et même au-delà. Donc tout cela n'est pas spécifiquement britannique. Ce qui l'est, en revanche, c'est le statut social du renseignement, son cachet. Ça, c'est fondamentalement différent de ce que l'on trouve dans les pays latins.
Il fallait que je choisisse mon camp, Georges. C'était un choix esthétique autant qu'un choix moral. Car l'Ouest était devenu franchement laid. Vous ne trouvez pas?
Et Carla avait-il songé à vous faire reprendre le cirque?
Mais je ne suis pas son garçon de bureau!
Mais qui êtes-vous donc, Bill?
Un homme qui aura marqué son passage.
Cette mythologie trouve bien entendu son paroxysme dans les James Bond de Ian Fleming, mais plus encore, de par leur réalisme, dans les romans de John le Carré, devenu le porte-voix de la communauté du renseignement britannique. Un peu comme pour la série de Canal+, Le Bureau des Légendes, le plus grand succès de le Carré, La Taupe, ne relate pas les exploits d'un espion invincible, mais bien la trahison d'un espion de Sa Majesté. Une trahison portée à l'écran en 2011 par Thomas Alfredson, avec un casting 10 étoiles emmené par Gary Oldman et une bande originale splendide sublimée par Julio Iglesias.
Avec les ans, la
cette communauté mythifiée de l'espionnage britannique a cependant quelques taches sur son plastron. La plus choquante d'entre elles reste l'affaire du dossier irakien. En 2003, le MI6 avait assuré à Tony Blair que Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. Le premier ministre britannique s'était largement servi de cette information pour justifier l'intervention militaire occidentale à Bagdad. Sauf que le renseignement était faux, ou largement exagéré. En 2016, une commission d'enquête incrimina le service, et tout particulièrement son directeur de l'époque, Sir Richard Dearlove.
Mais je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait eu la moindre intention de la part du gouvernement. Vous comprenez, c'est une question d'honnêteté. C'est l'enquête Chilcot qui a 12 volumes de plus que la Bible et qui tente de retracer l'origine de tous ces faits. Mais bon, c'est une question compliquée. Je n'ai pas particulièrement envie d'aller dans les détails, car nous y passerions la journée.
Si Sir Richard est mal à l'aise pour parler du dossier irakien, ses adversaires, eux, le font plus volontiers, quitte à l'accabler.
The problem with our intelligence,
Dame Pauline Neville-Jones,
in the run-up to the Iraq War, was of course that normal diplomatic contact had vanished.
Le problème avec les renseignements que nous récoltions à la veille de la guerre en Irak, c'est que tous les contacts diplomatiques étaient rompus. Nous n'avions plus de diplomates à Bagdad, et il n'y avait même plus de Britanniques ni d'Américains dans le pays.
Information, so-called, that we were getting. Was coming from Iraqi sources.
Donc l'essentiel des informations, si l'on peut dire, que nous recevions, venait de sources irakiennes. Et ces sources avaient des objectifs. Elles avaient intérêt à ce que nous intervenions. La plupart d'entre eux étaient des hommes politiques dans l'opposition.
The information was, you know, sort of and we had some confidence in this, in the information. But of course, it was actually departing further and further, potentially further and further from actually the situation.
Nous avions confiance dans leurs informations, alors qu'elles s'écartaient de plus en plus de la réalité. Et ce que nous obtenions d'autres sources avait l'air improbable et était donc écarté. Alors que c'était la vérité.
And when the Swedish-led UN mission went in,
before, et quand la mission de l'ONU, emmenée par la Suède, s'est rendue en Irak juste avant l'intervention militaire et qu'elle n'a rien pu trouver, les gouvernements occidentaux lui disaient « Mais vous ne cherchez pas bien, il y a des armes de destruction massive. Si vous cherchez bien, vous les trouverez. » Tout cela est très peu satisfaisant. Et il fallait bien que nous en tirions des leçons.
So, more rigorous examination. There were other problems as well, which was that the...
Il y a eu d'autres problèmes. Quand est venu le temps d'évaluer les informations dont nous disposions sur l'Irak, le conseiller qui travaillait pour Tony Blair a dit « Mais tout cela ne nous donne pas de raison d'intervenir. » Et les informations ont été renvoyées au Joint Intelligence Committee, comme si c'était le job du comité de fournir des arguments au gouvernement, ce qui n'est certainement pas le cas.
Say, well, this doesn't give us a case to go to war. And sort of sent it back. As if that was the JIC's job, which it most certainly is not.
Il y a eu ensuite une longue négociation sur les termes choisis pour décrire la situation en Irak, qui ont été durcis. Puis le Premier ministre lui-même a écrit une préface au rapport, utilisant des termes encore plus explicites. Les changements sont subtils, mais si vous regardez les trois documents, le rapport initial, le résumé réécrit et la préface du Premier ministre, vous voyez que l'information est graduellement gonflée.
L'épisode a conduit à un scandale retentissant outre-Manche et suscité l'une des plus vastes enquêtes du Parlement de l'histoire britannique, le fameux rapport Chilcot. Cet échec terrible du renseignement a fait éclore une flopée de films sur le sujet, alors que le cinéma anglo-saxon avait délaissé cette veine depuis les années 80. Le réalisateur britannique Paul Greengrass mettra en scène cette faillite des espions dans son Green Zone à la fin des années 2000.
Ouais, j'aurais quelques questions sur l'info pour demain. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est juste?
C'est du béton, c'est très sérieux.
Quelle est la source?
Eh bien, c'est une info de source humaine. Mais c'est solide, ça. C'est sorti à 4 heures ce matin.
Est-ce que c'est la même source que pour les autres sites? Je veux dire, chaque site qu'on a investi, ben, il n'y avait absolument rien.
Chef, voilà ce qu'on va faire. Parlons-en après, d'accord? Donnez-moi la liste des endroits où vous êtes allé et les coordonnées, on pourra s'assurer que vous aviez l'information juste et que vous êtes allé aux bons endroits.
Capitaine, les coordonnées étaient correctes. La question, c'est qu'il n'y avait rien dans ces endroits.
Ça attention suffit, chef, on doit maintenant
attendez. Attendez une seconde. Écoutons ce que le chef a à dire.
Ok, monsieur, je vous donne un exemple. On est allé sur le site de Diwaniya il y a une semaine. Des hommes de l'unité 101 ont été blessés en sécurisant les lieux. On est entré et on s'est retrouvé dans une manufacture de toilettes. Je pense qu'il y a une divergence bien réelle en ce qu'on retrouve sur place et ce qu'il y a dans le paquet d'infos. Il y a un problème avec l'information, monsieur.
Voici ce qu'il en est, chef. Ces informations ont été bien vérifiées. D'accord? Vous n'avez pas à questionner l'information, mais faire ce qu'elle dit. Est-ce que c'est clair?
Le scandale fut tel que le MI6 a été placé sous tutelle et humiliation suprême, confié à un directeur qui n'était pas un espion, mais un diplomate. Rencontré dans les salons de l'hôtel Napoléon lors d'un passage à Paris, John Sowers, dont le style tranche assez nettement avec celui de ses prédécesseurs, n'est pas peu fier d'expliquer comment il a remis de l'ordre chez les espions de Sa Majesté.
I was the first... J'étais le premier chef du MI6 depuis 40 ans à ne pas être issu des rangs du MI6 parce que le MI6 avait vu sa réputation entamée par deux scandales. Les renseignements fallacieux fournis par le service sur l'Irak et les mauvais traitements infligés aux détenus dans la soi-disant guerre au terrorisme. Il fallait reconstruire le service, restaurer la confiance. Pour ce faire, j'ai eu de nombreuses conversations privées avec des parlementaires, des hommes politiques et des rédacteurs en chef dans les quotidiens nationaux. Mais j'ai également pensé qu'il fallait s'adresser directement au public pour expliquer que le secret n'est pas un mot sale, que le secret est une chose nécessaire pour protéger efficacement le pays.
Secrecy is not a dirty word. Secrecy is necessary for the effective protection of the security of the country.
Cette campagne de relations publiques n'a pas, et c'est peu de le dire, été du goût de tous les membres du service. Nombre de vétérans se sont étranglés en voyant des confidences du directeur du MI6 dans les pages de leur quotidien du matin. Et Sowers reste aujourd'hui encore très critiqué par certains anciens du service. Les espions, s'ils sont des princes, sont aussi parfois des concierges.
Pour autant, l'exposition du MI6 sous Sowers ne fut qu'un début. Son successeur, Alex Junger, un pur produit du service pourtant, n'hésite pas depuis qu'il a pris la tête du MI6 en 2014 à multiplier les interventions publiques au pupitre. C'est sans doute le sens de l'histoire. À grand renfort de publicité, les services de renseignement britanniques vendent aujourd'hui publiquement leur ouverture à toutes les communautés. Le MI5 a été élu meilleur employé gay-friendly du pays. Les spectateurs de la BBC ont même eu la surprise de voir, en mai 2018, la première publicité télévisée du service, un sommet du genre. Une mère et son enfant jouent tranquillement devant un aquarium de requins, pendant qu'une voix off rappelle que le service n'est fait que d'hommes ordinaires.
We are intelligence officers, but we don't do what you think. It's not keeping your cool in a shark tank. It's picking up on the silent cues that matter. Understanding others, helping them see things differently. It's exploring the world beyond your own. And if that sounds familiar, it's because you do it every day. MI6. Secretly, we're just like you.
That pre-1994.
Bien sûr, avant 1994, le MI6, c'est notre service d'interception, GCHQ, était inavoué, selon la terminologie officielle. Autrement dit, leur existence n'était pas publiquement reconnue par le gouvernement. S'il y avait des questions au Parlement, le ministre concerné se levait et disait « Le gouvernement de Sa Majesté n'a pas l'habitude de faire des commentaires sur ce genre de sujet. » Point final. Durant la guerre froide, c'était habile et bien pratique. Dans une démocratie moderne, c'est totalement à côté de la plaque.
Ce retrait reste prégnant dans la mécanique du secret britannique. Contrairement aux États-Unis, où le président est réveillé tous les matins par un briefing de la CIA sur l'état du monde, les services britanniques, eux, ont toujours été à l'écart du pouvoir.
Quand David Cameron était Premier ministre et quand j'étais directeur du MI6,
John Sowers,
il lisait ses briefings de renseignement au saut du lit. On lui fournissait des rapports de renseignement, de temps en temps une analyse. Son cabinet privé lui préparait le dossier la veille, en fin d'après-midi. Il avait l'habitude de dire avec une certaine fierté que la première boîte qu'il ouvrait le matin était sa boîte renseignement. Il lisait les rapports, ajoutait des commentaires et des questions. Le système britannique est bien différent des États-Unis, où les fonctionnaires du renseignement doivent se lever à 2h30 du matin pour préparer le briefing qu'ils vont faire au président à son lever. Mais dans l'administration britannique, les services de renseignement rendent compte aux principaux ministres. Le MI5, le service de renseignement intérieur, rend compte au ministre de l'Intérieur. En tant que directeur du MI6, je rendais compte au ministre des Affaires étrangères, tout comme le responsable du GCHQ, l'agence d'interception britannique. Et nous avions tous accès, sur demande, au Premier ministre. Gérer le renseignement représente énormément de travail. Il faut approuver certaines opérations, etc. Si le Premier ministre devait tout prendre en charge, ça lui prendrait tout son temps. Mais surtout, il faut le dire, les choses se passent parfois mal dans le renseignement. Des opérations échouent. Il faut en rendre compte au Parlement et les hommes politiques doivent assumer ces échecs. C'est tout de même plus facile si quelqu'un d'autre que le Premier ministre joue les fusibles. C'est une protection pour le Premier ministre si quelqu'un d'autre que lui assure la gestion des espions au quotidien.
Sir Richard Dearlove.
The British services, as they currently exist, well, the Security Service and the Secret Intelligence Service, MI6 and MI5, were created in the run-up.
Les services de renseignement britanniques, dans leur forme actuelle, Secret Intelligence Service ou MI6, et Security Service, ou MI5, ont été créés juste avant la Première Guerre mondiale. Il y a eu des services avant, mais ceux-ci étaient construits autour de personnalités très spécifiques. Et lorsqu'elles disparaissaient, les services disparaissaient également. Avant 1909, le renseignement britannique avait une existence éphémère. Le MI5 et le MI6 ont été fondés pour faire face à la menace que représentait l'Allemagne impériale à l'époque.
About the intelligence community specifically, and therefore I'm talking about GCHQ and SIS.
La chose fondamentale à comprendre sur les services de renseignement, et tout particulièrement sur le MI6, c'est qu'ils sont mandatés par le gouvernement. Ils ne se mandatent pas eux-mêmes. Durant tout le XXe siècle, nous avons développé un système que l'on appelle le Requirement System, qui prévoit que ce sont les utilisateurs de renseignements au sein du gouvernement qui décident de quelles informations ils ont besoin. Et ces besoins sont définis et gérés par un comité qui dépend du Premier ministre. On produit un document qui recense les besoins de chacun, et c'est sur la base de ce document que les services vont chercher de l'information. Ils gèrent leurs priorités et leurs ressources comme ils l'entendent, mais en démocratie, les services de renseignement doivent être mandatés par le gouvernement. Ils ne décident pas eux-mêmes des informations qu'ils collectent. Si les services choisissaient leurs propres priorités, ils agiraient en dehors de tout contrôle politique.
La technique britannique depuis toujours est de mettre à l'épreuve les informations recueillies par les services de renseignement.
Dame Pauline Neville-Jones.
Ces informations ont été acquises auprès de sources humaines ou bien interceptées sur les réseaux. Et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Quand on fait des écoutes, la personne que l'on cible peut ignorer la surveillance dont elle fait l'objet, mais elle peut également en être consciente et dire des choses fausses pour vous induire en erreur. C'est pareil avec les sources humaines qui, en plus, demandent à être entretenues. Pour limiter ces incertitudes, les services vont préciser quelle est la fiabilité d'une information, car ils connaissent la source. Ce travail d'évaluation, un profane ne peut le faire. Si un service obtient une information particulièrement cruciale ou spectaculaire, il est vital de l'évaluer et de déterminer si c'est une manipulation ou bien au contraire, si c'est un renseignement capital. Pour cette raison, les services ont toujours évité de fournir des renseignements bruts aux ministres. Bien sûr, dans certains cas, comme l'imminence d'une guerre, il faut que les décideurs aient les dernières informations. Mais même dans ces occasions, les ministres sont accompagnés d'un officier de renseignement qui les aide à évaluer l'information. En temps normal, les services de renseignement fourniront les informations dont ils disposent sur un sujet particulier, mais ce ne sont pas eux qui écriront le rapport. La rédaction sera effectuée par un conseiller du Premier ministre, un haut fonctionnaire issu soit des services, soit des affaires étrangères. Dans leur rapport, ces rédacteurs incorporeront les informations fournies par les services, mais également des données publiques, des analyses issues d'autres ministères, de la presse, etc. L'objet de cet exercice, c'est de soumettre les renseignements à un test, de les mettre en relation avec le monde tel que nous le connaissons. Même avec ces précautions, on peut se tromper, bien sûr. Il y a eu des moments où les informations se sont retrouvées de plus en plus faussées. Ce qui s'est passé à la veille de notre intervention en Irak est une bonne leçon. Mais en général, ce système est une bonne manière d'éviter de devenir otage d'un monde secret où toutes les informations sont obtenues de manière anormale ou secrète. Parce que l'on peut très vite considérer que tout ce qui est secret est de l'or, alors que ça peut très bien ne pas être le cas.
C'est probablement l'une des conséquences les plus claires de la débâcle irakienne. Les espions britanniques concèdent désormais que ce qu'ils font n'est qu'une modeste partie d'un ensemble plus vaste et que la nature secrète des informations qu'ils collectent ne constitue pas une garantie de fiabilité.
When you take a policy decision, intelligence is often just one piece of a much bigger.
Quand vous prenez une décision politique, le renseignement, c'est souvent une seule part d'un ensemble de données beaucoup plus vaste, les informations publiques, etc.
And maybe
Sir Richard Dearlove.
Peut-être que le renseignement a un rôle important à jouer, mais ce n'est certainement pas le seul élément à influencer une décision politique. Toutes les fois où un gouvernement est trop dépendant de ses services de renseignement pour prendre une décision, il y a danger. On apprend tous de nos décisions passées. Aujourd'hui, je serai sur le qui-vive dès qu'un gouvernement se repose trop nettement sur les renseignements qu'on lui fournit et sur rien d'autre. Dans le cas de l'Irak, ce que j'ai dit publiquement, c'est que si vous pensez à un immeuble, le renseignement est le fait du toit, et que ce fait soutenait un poids trop important.
Une modestie qui tranche avec le mythe de l'espion qui résout les problèmes internationaux en 2-3 coups de cuillère à cocktail. Mais le renseignement reste un univers de faux-semblants et, sous l'humilité de convenance, perce la frustration de ne pas être un décideur, tout particulièrement quand on pense avoir la clé d'une crise majeure.
And I've also been ambassador at the United Nations and the ambassador in Egypt and political director at the Foreign Office. So I've had.
J'ai été aussi ambassadeur aux Nations Unies, ambassadeur en Égypte et directeur politique au ministère des Affaires étrangères.
John Sowers.
Donc j'ai eu toute une série de rôles et mon autonomie variait en fonction des sujets. Quand j'étais ambassadeur aux Nations Unies, j'étais le principal décideur. Bien sûr, je faisais des comptes rendus et on me donnait parfois des instructions, mais l'essentiel des décisions était prise à New York, à l'intérieur d'un cadre fixé par les ministres. À Downing Street, dans les bureaux du Premier ministre, vous êtes au centre de la mécanique gouvernementale. J'étais le conseiller affaires étrangères de Tony Blair pendant 2 ans et demi, au moment de la guerre au Kosovo et à la veille du 11 septembre. Évidemment, dans un tel rôle, vous avez beaucoup d'influence et vous avez très largement accès aux décideurs. Mais en fait, vous n'êtes responsable de rien. Vous donnez des conseils, mais vous n'êtes pas celui qui prend la décision. En tant que chef du MI6, je devais constamment me rappeler que je n'étais pas un décideur. Je dirigeais une agence de renseignement, j'avais des responsabilités précises en termes de récolte d'informations. Alors bien sûr, je pouvais dire au Conseil national de sécurité, eh bien, monsieur le Premier ministre, si vous choisissez de faire ceci, voici ce qui se passera. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Peut-être qu'une autre approche serait préférable, mais tout cela est très différent d'un travail de conseiller politique.
Comme plusieurs de ses homologues à la tête du renseignement occidental, John Sowers a longtemps planché sur un programme de soutien clandestin à la rébellion syrienne, à partir de 2012-2013, avant de devoir déchanter.
On ne gagne pas à tous les coups. Et la question n'est pas vraiment de savoir si j'ai eu gain de cause ou pas, mais si on a pris la bonne décision. Et très franchement, sur la question de savoir si l'on devait ou non intervenir en Syrie lorsque Bachar al-Assad a utilisé des armes chimiques contre sa population, je pense qu'on était face à une violation du droit international, l'acte d'un régime acculé par la pression internationale, et que si on était intervenu en Syrie à ce moment-là, durant l'été 2013, je pense que le cours des événements auraient changé et que la situation en Syrie aujourd'hui serait très différente. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Plutôt que prendre ses propres responsabilités, David Cameron a demandé l'autorisation du Parlement pour intervenir, à tort, à mon sens. Le Parlement a rejeté la requête, ce qui a provoqué des doutes chez Barack Obama, qui est revenu sur son engagement d'intervenir. À cette époque, le gouvernement français était bien plus déterminé et, à mon sens, bien plus sensé que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Mais l'Ouest n'est pas intervenu, ce qui a laissé toute la place à la Russie pour agir. Et ce sont la Russie et l'Iran qui ont pesé sur le cours de la guerre. Et aujourd'hui, Bachar al-Assad est toujours au pouvoir. Donc oui, c'est frustrant quand votre système démocratique en vient à adopter ce qui, pour vous, est le mauvais point de vue. Mais je préfère vivre dans une démocratie qu'ailleurs.
Cette frustration de l'espion, qui a l'oreille du prince mais qui ne tient pas sa main, est inhérente au métier. On est loin de l'image de James Bond qui outrepasse régulièrement le cadre de ses missions. Cette frustration est l'essence du choc qu'a constitué l'espion qui venait du froid à sa sortie en 1965, dans lequel un vieil espion usé se fait balader par son propre service, au gré de choix politiques qui le dépassent. Un mal-être qui lui arrache cette mythique tirade de fin, qui, en pleine guerre froide, où les espions sont en première ligne, fait vraiment mauvais genre.
Nous leur avons rendu les choses plus faciles. On s'est servi de nous. Ils nous ont trompés parce que c'était nécessaire. Fiedler paraissait prêt de réussir. Sans notre intervention, Mund aurait été fusillé. Ils ont bien manœuvré. Du début jusqu'à la fin, ils ont bien manœuvré.
Oh, c'est répugnant cette façon de voir. De quel droit oses-tu mettre le monde à l'envers? Alors explique-moi les règles de ton jeu.
Une seule prime tout, l'opportunité. Ce que Mund offrait, Londres en avait besoin, donc Fiedler serait tué et Mund resterait en vie. Ce fut une opération abjecte et répugnante, mais payante.
Pourquoi?
Tu prends les espions pour des saints, pour des philosophes mesurant le pour et le contre selon l'évangile de Dieu ou de Karl Marx. Erreur, ce n'est qu'une bande d'imbéciles, de minables salauds comme moi. Des pauvres types, des ivrognes, des pédés, des cocus, des fonctionnaires qui jouent sottement aux cow-boys et aux indiens pour égayer leur petite existence vide. Crois-tu que ce soit des moines dans leurs cellules pesant le bien et le mal? Hier, j'aurais volontiers tué Mund, parce que je le tenais pour un monstre et un ennemi, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un monstre et cependant mon ami. Londres a besoin de lui, pour permettre à la grande masse d'imbéciles que tu admires tant de dormir sur leurs deux oreilles, dans leurs puciers. On a besoin de lui pour la sécurité des minables comme toi et moi.
Tu as tué Fiedler!
Crois-moi, quand une cause est vraiment importante, on tue ses amis. Qu'est-ce qu'a fait ton parti? Sa route est parsemée de cadavres.
He's not the first. He's not the first. But he's the second best secret agent in the whole wide world. Not number one. But not the worst. He's just the second best secret agent in the whole wide world. He's every bit as good as what's his name with a dame, any dame. And all those bullet holes are in his vest to prove you work a little harder when you're second best. Give him his due. He's number two. Right in there doing his act, despite the fact he shot clear through. Not the tenth, ninth, eighth, seventh, sixth, fifth, fourth, third, or first when the challenge is heard. But the second best secret agent in the whole wide blue.
L'autre grand défi pour les services britanniques, c'est le Brexit. Sur ce sujet hautement inflammable, qui divise toute la société et pourrait même menacer les échanges de renseignements entre services européens, les maîtres espions ont des approches différentes, mais tous font la même analyse.
Au fil des années, malgré nos différences, le Royaume-Uni et la France ont mis en place une coopération très étroite en matière de renseignement. J'étais à Paris et j'étais en charge de cette relation. Je connais donc très bien les services français et j'ai une admiration immense pour eux, tout particulièrement le service intérieur, l'ex-DST, qui était particulièrement efficace. L'alliance entre la France et le Royaume-Uni est naturelle et va continuer. Lorsque les débats sur le Brexit ont commencé, j'ai écrit une lettre ouverte au président Macron expliquant que même si notre vision de l'Europe était différente, Cela ne voulait pas dire que nous ne pouvions pas avoir une relation. Si l'on regarde vers l'avenir, le Royaume-Uni ne va pas rompre ses relations d'échange de renseignements avec les pays membres de l'Union européenne. Ce, d'autant plus que nombre de ces pays sont très dépendants du Royaume-Uni. Nous les aidons à comprendre la menace russe, en particulier en Europe centrale et en Europe de l'Est. Une autre sphère de coopération est bien sûr l'antiterrorisme. Tout cela n'a jamais fait partie des négociations sur le Brexit et à l'avenir, je pense que la dépendance de l'Europe envers le Royaume-Uni sur les questions de renseignement et de sécurité va continuer, mais tout cela se passera loin de Bruxelles.
And I mean, I find it rather aggravating or annoying, you know, that the Commission completely ignores this aspect.
Et je dois avouer que cela m'énerve un peu de voir la Commission européenne considérer que tout cela n'existe pas parce que cela échappe à son contrôle. D'une certaine manière, ces relations sécuritaires sont aussi, et parfois, plus importantes que les relations commerciales formalisées par les traités européens. Alors oui, le fait que nous quittions l'Union européenne va rendre certains échanges un peu plus difficiles. Certains disent beaucoup plus difficiles, et c'est sans doute vrai pour les échanges de données, ainsi que pour la police et la justice. Mais mon opinion est que tout cela peut être aisément rétabli par des accords bilatéraux qui seront faciles à négocier parce que tout le monde a intérêt à ce que le système continue.
To keep that system running. So it will change things, but the EU isn't leaving Europe.
Le Royaume-Uni ne quitte pas l'Europe, il quitte les traités européens. Mais nous allons continuer à être un acteur essentiel de la sécurité européenne.
And frankly, you know, if you look at this historically, whether it was
si vous envisagez la question de manière historique, vous voyez bien que de Napoléon à la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni a toujours joué un rôle central dans la sécurité européenne et va continuer à le faire.
C'est
un sujet très très sensible.
John Sowers.
Mon pays est très divisé sur la question du Brexit. Mon opinion personnelle sur le Brexit est très claire. Je pense que c'est une erreur. Mais si j'étais encore le directeur du MI6, je ne serais pas intervenu dans le débat public. J'aurais été très clair en privé sur les conséquences, notamment en matière d'échange de renseignements et de lutte contre le terrorisme. Dans toutes les démocraties, vous devez accepter les décisions de l'électorat. Mais je pense que David Cameron a eu tort d'organiser un référendum sur cette question. Mais il l'a fait, avec les conséquences que l'on sait, ce qui veut dire que mes successeurs à la tête du MI6, comme au MI5 ou au GCHQ, doivent s'assurer que la coopération vitale que nous avons mise en place avec nos partenaires reste en place, autant que possible.
Stays in place as far as possible. Actually, membership of the European Union doesn't make a huge difference to.
Soyons clairs, le fait de quitter l'Union européenne n'a pas une incidence énorme sur le travail de renseignement. La principale conséquence porte sur le partage des données, qui est de plus en plus régulé par l'Union européenne.
Place in the world. Oh, you didn't. Too bad. You made it out. I'm still stuck here. Oh, but I'll get out. Oh, yeah, I'll get out. Can't you see giant walks among you? See through your petty lies. Do you think I do these things for real? I do these things just so I survive.
Si le Brexit mobilise les espions britanniques, il ne semble donc pas les inquiéter outre mesure. En revanche, la campagne qui a précédé le référendum sur le retrait de l'Union européenne a été l'occasion de manipulations massives de l'opinion, notamment via les réseaux sociaux. Le phénomène est nouveau et inquiète beaucoup les services, qui ne savent pas comment y faire face.
Hybrid warfare. Well, hybrid warfare.
Dame Pauline Neville-Jones.
La guerre hybride, c'est utiliser non pas des armes conventionnelles, mais des technologies modernes, notamment à travers l'Internet, comme des modes de pénétration et de diffusion de propagande dans des sociétés étrangères à des fins de déstabilisation.
And with the intention, frankly, of destabilizing other people's societies and affecting outcomes. I think there's plenty of evidence that, you know, there has been.
On voit bien que ce genre de tactique est à l'œuvre et que la Russie est le pays qui y a recours, notamment pour affecter le résultat des élections.
With the object of influencing the outcome of elections. Whether it has, I mean, there's a different issue. That this the attempts take place, I think it's clear. And there are other long-range issues. I mean, the attitudes towards NATO would be something which.
Qu'elle y parvienne est une autre question. Mais on voit bien qu'elle essaie. C'est la main invisible.
That obviously that kind of activity sits alongside other policies. The Western response is, in a sense,
Un autre objectif pour la Russie pourrait être d'influencer l'attitude d'un pays envers l'OTAN. Comment les pays occidentaux peuvent réagir? J'espère que nous ne céderons jamais à la tentation de faire la même chose. Ce serait une trahison de nos valeurs et j'espère ne jamais voir cela.
What of course it does is what it's designed to do. Of course, in destabilization is to, is to create conflict and disagreement.
Mais l'alternative, c'est que notre relation avec la Russie est aujourd'hui compliquée de sanctions qui vont être difficiles à dépasser. Tout cela, la déstabilisation, est conçue pour créer des conflits et des désaccords au sein des sociétés qui sont ciblées. En cela, c'est très réussi.
And people have been taken for a ride in actually believing that.
Il y a des algorithmes qui sont conçus pour susciter des situations complètement fausses, inventer des conflits inexistants et tromper les gens, leur faire croire que des incidents ont eu lieu alors que ce n'est pas le cas.
Inside a society, you can by using clever algorithms push the argument to the extremes.
D'autres algorithmes sont conçus pour pousser les désaccords à leur maximum en insérant des éléments qui augmentent la tension et en mettant en avant les vues les plus extrêmes dans les deux camps.
Security apparatus, of course, can tell you what's going on. I wouldn't want to see my security apparatus doing the fighting much.
Les services de sécurité peuvent vous dire ce qui se passe, mais je ne voudrais pas les voir contre-attaquer sur ce terrain. C'est la société civile, ce sont les politiques qui doivent réagir et reprendre notre démocratie en main. Il y a des choses que les services de renseignement peuvent faire, notamment renforcer nos défenses. Les services peuvent nous aider techniquement, mais il s'agit avant tout d'un défi à nos démocraties. Et c'est le système démocratique et la société civile qui doit répondre.
Aux États-Unis, l'action des services étrangers, notamment russes, au sein de la vie politique nationale, a fini par dresser la Maison-Blanche contre ses propres services de renseignement. Une situation cauchemardesque, auquel a pour l'instant échappé le Royaume-Uni, mais qui reste un danger latent.
There's a lot we still don't know about exactly what happened in the US election campaign. It's of course an unusual situation for.
Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la campagne américaine de 2016. C'est une situation très inhabituelle pour la Maison-Blanche de s'opposer ainsi à ce que disent ses services. Mais c'est un bon exemple de la défiance que peuvent générer ces tactiques hybrides, non seulement au sein d'un même gouvernement, mais même entre un gouvernement et sa population. Et c'est exactement ce que souhaitent ceux qui en font usage.
Merci à Sir Richard Dearlove, Dame Pauline Neville-Jones, John Sowers. Mixage Delphine Baudet, stagiaire Lisa Lamy, réalisation Rafik Zenin. L'aristocratie de l'espionnage, le Royaume-Uni, dans la série de Philippe Basset et Pierre Gatineau, Conversation secrète.